Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres ensemble. Prenons soin des autres. Marceau s'en vient prendre soin de vous autres. Demain, c'est vendredi.
Woo!
On vous attend à 14h. Yeah!
Yeah! Salut!
Salut!
Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Gab Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonine Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Podcast de ce soir, on a le plaisir d'accueillir le journaliste et chroniqueur Daniel Desgnaux qui est avec nous. Salut Daniel!
Allô Yannick, ça va?
C'est un plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Je sais que tu as une journée quand même assez occupée. Tu me parlais de deadline pour ce qui est des livres que tu as à produire. Tu dis « je fais 18 heures par jour ces temps-ci, t'es une machine » puis c'est un privilège de te rencontrer, soit dit en passant.
Ben écoute, c'est un plaisir partagé, mon cher.
Daniel Desgnaux, moi j'ai eu l'occasion de jaser plusieurs fois avec ta sœur.
Oui,
puis j'en ai su un peu plus sur ta famille à ce moment-là avec ta sœur, mais t'as des parents qui étaient et des grands-parents qui étaient artistes aussi.
Ben écoute, c'est pas surprenant que j'ai décidé de tremper dans ce milieu-là. Mon grand-père, que j'ai pas connu parce qu'il est décédé, j'avais 2 ans, jouait le rôle du père Ovide dans des radios romans. Et après ça, a commencé à le jouer à la télé. Et quand il est décédé, ben il ne voulait pas tuer le personnage. Alors, ils ont demandé à mon père, qui était déjà comédien, Pierre Desgnaux, de prendre l'élève. Alors, ils ont mis du gris dans les cheveux, puis ça, pour que ça ait l'air de rien, tu sais, qu'il ressemble au personnage. Puis finalement, il l'a joué pendant 10 ans. T'sais.
Fait que ton père était le père Ovide dans les belles histoires des pays d'en haut.
C'est ça, exact.
Puis naître avec dans une famille où le père, c'est une grande vedette, ça a-tu été quelque chose qui a fait en sorte que tu t'es dit, tu sais, « Oh, wow, moi, c'est dans ce domaine-là que je veux me diriger plus tard? »
Bien, c'est drôle parce que, tu sais, mon père, il m'amenait souvent sur le plateau des Belles Histoires, puis en répétition, puis ça, puis je rencontrais André Champagne puis tous les autres, tu sais. Ouais. Je trouvais ça le fun, mais jamais je me suis dit, « Ah, oh, je vais devenir comédien un jour, tu sais, comme eux autres. » Non. Tu sais que mon père aussi était l'auteur des romans X-13. Il a écrit ça pendant 20 ans, 934 romans. Puis moi, c'est plus ça qui m'a impressionné. Puis dans le sous-sol chez nous, je lisais ses romans, puis ça. Puis ça m'a donné le goût de l'écriture. Alors c'est comme ça que finalement, je me suis dit, bon, OK, l'écriture, le showbiz, 1 plus 1 égale 2, tu sais.
Ton père, Pierre Desgnaux, a écrit combien de romans X-13?
934 en 20 ans. Et... tiens-toi bien, 22 millions d'exemplaires vendus. C'est fou, là.
Ça, 22 millions. Ça se fait plus au Québec. Père...
Ben non, c'est sûr. Mon père me racontait que les gens faisaient la file. Je pense que le nouveau roman arrivait le jeudi, OK? Et les gens faisaient la file pour rentrer dans une espèce de librairie, là, dépanneur, pour acheter le nouveau X-13. Puis ça marchait au bout. Écoute, à la fin, c'était vraiment un teaser. Qu'arrivera-t-il à notre héros? Réussira-t-il à se sortir d'impasse, etc.? Fait que les gens étaient accrochés dur là-dessus. Fait que évidemment que ça a été un méga succès.
T'as-tu pris conscience assez jeune que ton père, c'était pas n'importe qui?
Ben quand même, tu sais. Puis quand tu vas magasiner avec tes parents, puis que les gens arrêtent ton père, puis... Il parlait du père Ovide. Ah, vous, je vous haïs, l'espèce de colleux de Séraphin, tout ça, tu sais. Moi, je trouvais ça drôle, mais tu sais, c'est toujours étonnant, hein, quand les gens arrivent comme ça, puis se lèvent pour venir à ta table dans un restaurant pour demander un autographe. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, il y avait moi et l'autre, et il y avait Réal Bélan qui jouait là-dedans.
Ouais.
Réal Bélan et mon père, ils se ressemblaient, petite moustache, puis tout ça. Fait que c'est arrivé une couple de fois que. Il y a quelqu'un qui arrive et dit « Ah, vous, je vous aime avec Dodo puis Denise, puis ça. » Fait que là, mon père dit « Ben, vous êtes bien gentil, madame, me donneriez-vous un autographe? » Ben oui. Alors, à ce moment-là, il prenait un bout de papier puis il signait « Amitié Réal Bélan.
» Je trouve ça très drôle. Puis, y a-tu un certain challenge pour toi d'arrêter d'être le fils de, puis être toi-même Daniel Desnoyers, puis avoir ta propre carrière?
Bien, ça l'aurait été, évidemment. Ça aurait été difficile si j'avais décidé de devenir comédien à mon tour.
Ouais.
Zéro talent pour ça. Alors, je pense que la démarcation s'est faite assez vite. T'sais. Puis, je pense qu'au moment où, écoute, quand j'ai commencé à étudier là, en lettres et à l'université, et tout ça, ben, mon père, sa carrière de comédien était finie parce qu'il avait été tellement identifié au personnage qu'après 10 ans, ça c'était en 1970, ben, that's it, il n'y a plus eu des petits rôles par-ci par-là, mais c'était fini, tu sais.
Est-ce que, dans ton cas, journaliste culturel, t'as-tu commencé au culturel comme journaliste?
J'ai commencé à un journal qui s'appelait Le Petit Journal. C'était l'ancien chanteur Gilles Brown qui avait lancé ça. Puis c'était des affaires, écoute, je me souviens d'un reportage, j'étais allé au Palais des Nains,
ouais,
sur la Rachelle à Montréal, faire un reportage là-dessus, tu sais. Mais bon, il n'y a pas de saut métier, puis il n'y a pas de saut reportage, alors... J'ai fait peut-être 2 mois au Petit Journal et entre-temps, j'avais fait application chez Québécois. Et là, ils sont venus me chercher. Je suis rentré là, rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Photo Vedette pour les jeunes. Puis ça, puis écoute, j'ai jamais arrêté. T'sais.
Ouais. Puis c'est encore une passion pour toi aujourd'hui.
Bien, c'est encore une passion. Tu sais, quand je me lève puis je sais que j'ai une entrevue à aller faire, d'abord, c'est pas une entrevue, c'est une conversation. T'sais. Puis souvent, ben, c'est des gens que je connais depuis au-dessus de 30 ans. T'sais. Et souvent, ces gens-là demandent au magazine pour lequel est booké l'entrevue, « Ah, moi, je voudrais que ce soit Daniel qui vienne. » Mais ça, c'est flatteur. Puis à ce moment-là, c'est vraiment des retrouvailles. Alors, la passion, oui, elle est encore là. Puis je te dirais, j'ai été chanceux parce que durant ma carrière, là, j'ai rarement eu des emplois ou des contrats où je me disais, « Ah oh, non, ça ne me tente pas, là, ça ne me tente plus. » je suis photographe aussi, tu sais, à un moment donné, je faisais des mariages. Puis là, 9 heures de temps, à un moment donné, je commençais à trouver ça un peu intense. Fait que là, j'ai décidé, bon, OK, le mariage que je viens de faire, là, ce soir, là, ben, c'est fini, c'est le dernier, tu sais. Mais c'est le fun de pouvoir contrôler son horaire et ses emplois, finalement, comme ça, tu sais.
Qui t'a donné ta première chance dans le métier?
Écoute, c'est Pierre Péladeau, finalement, tu sais.
Ouais.
Moi, je me souviens quand les bureaux étaient sur la rue Roy à Montréal, tu montais l'escalier et tu arrivais face au bureau de Pierre Péladeau qui était toujours fermé. La porte était toujours fermée. C'était comme une exception si tu le voyais sortir de là. T'sais. Mais de temps en temps, je le croisais, évidemment. Puis c'est drôle parce que Pierre Péladeau ne m'appelait jamais par mon prénom ou Daniel ou quoi. T'sais. Il me disait toujours Desnoyers. Il m'appelait toujours Desnoyers, ouais, comme ça.
Mais c'est ce qu'on nous disait de lui, c'est qu'il avait une mémoire phénoménale pour les noms. Si tu le rencontrais une fois, il se souvenait de ton nom. Est-ce que c'était vrai, ça?
Oui, oui. Puis je pense qu'il y avait une certaine affection pour moi, je te dirais, en raison justement de mon père. Tu sais. Puis bon, il l'avait côtoyé aussi au début des journaux à Potin, tout ça. Fait que on avait quand même pas une relation intime, là, mais il était vraiment cool, tu sais.
Oui. Puis, est-ce que ça a été un personnage marquant pour toi? Moi, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais quand on l'entendait parler dans des entrevues, on voyait que c'était un homme qui avait un franc-parler, qui n'allait pas, avec le dos de la cuillère là, pour dire ce qu'il voulait dire. C'était quelqu'un qui était assez direct. C'était quelqu'un d'exceptionnel pour moi, mais je ne l'avais jamais rencontré. Toi, dans ton cas, est-ce que l'image que la population pouvait se faire de Pierre Péladeau, c'était la bonne, toi qui le côtoyais?
Oh oui, c'était la bonne. Tu sais, il niaisait pas avec le puck, puis quand il prenait une décision, c'était comme « OK, let's go, c'est ça, c'est ça ». Tu sais, je me souviens d'une fois où il m'avait convoqué dans son bureau avec José Lito Michaud, qui était un jeune journaliste à ce moment-là, et il voulait faire un changement à la direction du magazine le lundi. Écoute, ça a duré, je te dirais, là, 12 secondes dans son bureau. Il dit « Michaud, t'es jeune, t'as de la fougue, tu vas être directeur du magazine. Puis Desnoyers, toi, t'as l'expérience, fait que tu vas être son rédacteur en chef. That's it. OK, merci, monsieur. Puis tu sors du bureau. Ça finit là.
C'est assez clair, ouais. C'était pas des rencontres de plusieurs heures, là.
Non. J'ai jamais eu l'occasion d'aller prendre un repas avec lui puis de jaser pendant des heures.
Puis en début de carrière, quels sont les personnages les plus marquants que t'as eu en entrevue, Daniel?
Écoute, moi, j'étais en amour avec Nicole Martin. Adolescent, là, je tripais sur Nicole Martin. J'aimais ses chansons, puis la fille était absolument superbe. l'une de mes premières affectations, c'est d'aller rencontrer Nicole Martin qui va chez son coiffeur. Puis après ça, ben, on fait l'entrevue. Je me souviens absolument pas de l'entrevue que j'ai faite. Puis je me souviens pas comment c'était de Nicole. T'sais. Écoute, je l'avais. C'était une idole finalement. T'sais. Mais après ça, t'sais, quand tu rencontres des Ginette Reno, des Ferland, il y avait René Simard qui commençait quasiment là, à ce moment-là. C'était assez impressionnant de tremper dans un milieu où il y avait des vedettes qui étaient déjà adulées par les gens, tu sais.
Est-ce que c'était des gens qui étaient terre à terre dans leur quotidien? Moi, je rencontre plus des personnages politiques, puis je me rends compte des fois, Daniel, que les gens qui ont réussi ont un calme exemplaire, sont foncièrement humains, sont. Puis je vais te donner un exemple là, qui est assez particulier. Moi, Jean Charest, Daniel, mais très honnête avec toi, je n'étais pas capable de le sentir en peinture. Je le regardais à télé, il m'énervait. Je l'entendais à la radio, il m'énervait. Mais quand je l'ai rencontré, par exemple, il s'est assis avec moi, il me serrait la main, il me regardait dans les yeux, il s'intéressait à moi. Ça a été comme un charmeur de serpent. Puis quand il est parti, on a eu une entrevue de presque une demi-heure. Puis quand il est parti, je me suis dit, hey, sacré fils, ce gars-là, j'ai l'impression que c'est mon meilleur ami. Il n'y avait pas le step supplémentaire de je suis le premier ministre. À l'époque, il était premier ministre, mais il était en élection pour un autre mandat. Puis j'avais trouvé Jean Charest exceptionnel. Quand tu les rencontrais dans les années 80, ces artistes-là, est-ce que c'était des gens qui étaient très hautains ou c'était des gens qui étaient très terre à terre?
Très terre à terre, très simple. T'sais, on dit toujours que les plus grands sont les plus simples.
Ouais.
Puis même et des artistes de l'extérieur, tu sais, je pense à Aznavour, Bécaud et compagnie, tu sais. C'est du monde, là, avec le métier qu'on fait, c'est pas comme la politique ou comme un journaliste qui est dans le sport, tu sais. Les artistes ont besoin des journalistes dits artistiques, entre guillemets, puis pour vendre leurs billets, pour vendre des albums, puis ça. Puis à ce moment-là, ben, il était gentil, puis moi, je me suis toujours fait, évidemment, un devoir d'être gentil avec eux autres, de ne pas les blaster, parce que c'est ça l'idée, tu sais. Si tu es chroniqueur culturel à la radio, oui, faut que tu fasses des critiques, puis il faut que tu parles d'un album, ou faut que tu parles d'un spectacle, puis écoute, tu y vas pas, évidemment, avec des mensonges, c'est pas bon, tu le dis, tu sais. Mais avec ces artistes-là, ben, c'était quasiment de la promotion, comme les artistes font aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ils se font de la promotion pour plugger, entre guillemets, leur spectacle ou leur nouvel album, tu sais.
Ouais. Ce qu'on me disait, moi, chez certains artistes, je pense à une de mes amies, Pascale Picard, c'est que parfois, on a 15 entrevues dans une journée ou 20 entrevues dans une journée, puis c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. Toi, en tant que chroniqueur, en tant que journaliste culturel, tu étais conscient de ça, que les artistes faisaient toujours poser les mêmes questions? Fait que j'imagine que tu te disais avant l'entrevue, moi, j'ai passé certaines balles courbes pour qu'ils puissent me donner peut-être d'autres matériels que les autres journalistes n'ont pas.
Ben exactement, parce que tu sais, ça fait usine à saucisse là, quand, mettons, tu as cinq journalistes qui passent en avant de toi, puis tu es le sixième, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Fait que tu essaies de, sans savoir ce que les autres ont dit, ben tu essaies d'aller ailleurs, puis c'est toujours le défi, tu sais. Puis évidemment que généralement, ça marchait, tu sais. Moi, je suis un gars sympathique, gentil, puis les artistes en général, j'ai eu la chance qu'ils m'aimaient, tu sais. Fait qu'on arrivait là, puis je faisais une entrevue, puis oups, là, je commençais par « Hey, comment ça va? Puis t'es-tu bien occupé? Puis c'est-tu le fun, la promo? T'aimes-tu ça faire des entrevues, etc. » t'sais? Puis c'est plus difficile, je te dirais, avec des artistes que tu connais moins. Au début, là, tu rencontres, mettons, une jeune chanteuse, puis qui accorde cinq entrevues avant toi, ben tu la connais pas, tu essaies de penser à d'autres questions. Tu sais, c'est du travail, finalement. Il faut que tu creuses la tête,
Il y
t'sais.
a quand même un schéma de méfiance aussi, des fois, à la base qui est instauré quand tu rencontres quelqu'un qui est là pour te poser certaines questions. Des fois, tu crains un peu les questions qui vont être posées. Fait que le temps de te faire une partielle amitié avec la personne qui est en interview, puis rendre une interview intéressante, puis là, tu te rends compte que ton invité qui est avec toi est très, très, très à l'aise. C'est le fun, ça donne les meilleures entrevues. Puis des fois, tu es capable d'aller plus loin que si tu n'avais pas justement fait cette petite tempérée, si tu n'avais pas tempéré au départ, là.
Oui, absolument. Puis, tu sais, souvent, il y a des amitiés qui sont nées, évidemment, au fil des ans, tu sais, des Pichet, Rivard, Séguin. Puis, écoute, même Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, c'est impressionnant. La première fois que tu te retrouves devant lui, tu sais, c'est Monsieur Vigneault, là. Tu l'appelles pas Gilles, gros comme le bras, comme ça, là, tu sais. Puis, écoute, charmant, gentil, puis il voit que tu es un jeune journaliste, fait que. Il essaie pas de t'en passer, là. Il traite comme s'il traitait un autre journaliste d'expérience. Fait que, tu sais, les gens sont vraiment, les artistes dans ce milieu-là sont vraiment charmants. Puis, comme je te disais tantôt, ils ont quelque chose à vendre, tu sais. Puis, au-delà du plaisir de discuter avec quelqu'un qui va parler de leur show ou de leur émission de télévision dans laquelle ils apparaissent, ben évidemment qu'il y a comme une belle conversation, une complicité qui s'établit, tu sais.
Est-ce que, Daniel Desniaux, quand tu étais avec ces gens-là, bon, il y a le schéma de méfiance des fois qui s'instaure, tu t'assois, tu deviens avec une partielle amitié, il y a des confidences des fois qui arrivent, mais quand tu avais des critiques à faire, parce que tu as travaillé avec M. Arcan pendant des années et des années, quand tu avais des critiques à faire, est-ce que ça te revenait d'en face des fois?
Ben, ça m'est arrivé, entre autres, un spectacle de Cathy Gauthier.
Oh!
Puis, je pense que c'était l'un de ses premiers spectacles. Puis, écoute, tu sais, tu peux pas tout aimer, hein? Moi, je suis allé là, j'ai eu le malheur de dire en ondes que ça riait pas tant que ça, finalement, tu sais. J'étais comme dans le milieu de la salle, puis en avant, ça riait parce que c'était probablement tous ses invités, puis tout ça. Mais je trouvais que ça riait pas tant que ça, puis j'avais pas trippé outre mesure sur le show. Alors, je l'ai dit, tu sais, y a pas, tu peux pas passer à côté et dire « Ah oui, ah, c'était super », mais non, c'était une job à faire, tu sais. Puis surtout quand tu es avec Paul Arcand, tu sais, il s'attend à ce que tu dises les vraies choses. Alors, ça m'est revenu d'en face, mais c'est pas arrivé si souvent que ça, tu sais, que j'ai une critique à faire, puis que, oups, j'ai un appel ou quoi après, là, tu sais.
Ça fait-tu en sorte, ça, des fois, que les invités que tu étais supposé d'avoir, tu les as pu parce que la dernière fois que tu as parlé d'eux, ça n'a pas fait leur affaire?
Non, c'est jamais arrivé.
Tu as rencontré Charles Aznavour, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit tantôt?
Ben, Charles Aznavour, puis bon, tu sais, John Hallyday et compagnie,
Ouais.
mais Aznavour, là, un monsieur tellement gentil qui, à un moment donné, tu sais, c'est ma deuxième entrevue que je fais avec lui. Puis au bout de 10 minutes, il commence à me raconter qu'il fait chambre à part maintenant parce que sa femme trouve qu'il ronfle trop. Puis tu te dis, voyons, j'ai pas cherché à avoir cette confidence-là. Il se confie comme si j'étais un vieux chum, tu sais, ça c'est magique. Puis tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, qui dit journaliste culturel dit souvent journaliste artistique et dit journaliste à potin, tu sais. C'est sûr que quand j'ai commencé dans les années 80 et tout ça, ben, tu sais, il y a des artistes qui étaient prêts à se confier, à parler de leur vie privée, puis à raconter leur peine d'amour, etc. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas. Et il y en a d'autres qui, tu sais d'avance, là, qui ne touchent pas à ça, tu sais. Il y a des attachés de presse qui disent, évidemment, tu lui parles pas de sa vie privée, tu lui parles pas de son voyage qu'elle vient de faire, etc. Tu sais, puis bon, t'as pas le choix de respecter ça, tu sais.
Mais quand même, un monument, rencontrer un monument comme Charles Aznavour, puis après ça, diffuser ton travail, que ce soit à l'écrit ou encore à la radio ou à la télé, ça doit être exceptionnel. Est-ce que tu as déjà protégé des artistes contre eux-mêmes?
Non, je te dirais non. Vraiment, c'est pas arrivé non plus. Parce que, évidemment, que les artistes que tu rencontres, ils disent ce qu'ils veulent bien te dire. Puis, tu fais ce que tu en veux. Puis, évidemment, que si l'entrevue est prévue pour 10 minutes, ben, tu essaies que ce soit 10 minutes productives puis que tu aies du bon matériel. Quand j'étais à Salut Bonjour au week-end, ben, tu sais, tu as une entrevue à faire, tu as un reportage d'à peu près 2 minutes 30 à présenter. Ben, à un moment donné, tu le sais, là, ça donne rien de continuer à faire l'entrevue. Tu as ton matériel, tu l'as dans la tête, là, OK, ça va commencer là, puis ça va finir là, tu sais.
Puis Johnny Hallyday, quand tu l'as rencontré, Johnny Hallyday, pour les gens qui l'entendent une première fois, là, qui connaissaient pas cet individu-là, il était vu un peu comme Elvis, le Elvis européen.
Ouais, carrément. Puis il y avait une réputation. Il y avait une réputation, j'entendais dire à droite et à gauche qui était intense.
Ouais.
Puis d'autres fois, il était charmant. Puis là, il était venu à Montréal pour présenter un album de blues qu'il avait fait. Puis écoute, gentil, 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 comme ça se peut pas. Puis il parlait d'une voix comme ça, éteinte un peu, là, tu sais. Puis c'est quand même impressionnant quand tu te retrouves devant des personnes comme ça ou des stars, là, comme, je sais pas, Harrison Ford ou Nicole Kidman, etc., tu sais. Tu sais qu'ils n'en ont rien à foutre du jeune journaliste qui est là devant, eux autres, puis tu as un travail à faire, mais tu sais, c'est de le faire le mieux possible pour avoir du bon matériel, tu sais.
T'as fait ça pendant des décennies, ce métier-là. Y a-t-il quelque chose qui relie ces gens-là, qui sont des exceptions dans notre société? Je veux dire, quand tu es une méga star, tu fais pas partie de 50% de la population, il y a peut-être 1 ou 2, 3% des gens qui vont peut-être un jour toucher à la célébrité. C'est-tu des gens qui ont quelque chose en particulier que tu as détecté chez eux?
Bien, je te dirais que les mégastars, là, évidemment, surtout si on parle d'artistes français, ils ne peuvent pas sortir de chez eux comme ils veulent, tu sais. Mais ici, au Québec, là, il n'y a personne qui se lance sur Paul Piché là, pour y arracher son linge, là, tu sais.
Ben, Michel Louvain, dans le temps, il se faisait tirer des affaires par la tête. C'était souvent des brassières puis des bobettes, puis il se faisait arracher son linge sur le dos, là.
Ouais, c'est vrai, mais ça, on parle d'une autre époque, là, tu sais. Aujourd'hui, les artistes ont leur petite vie privée, puis évidemment que c'est un métier qui fascine toujours les gens, hein? De voir des artistes qui se produisent sur scène, qui vont faire des albums, puis des shows, puis tout ça, ça finit plus. Mais dans le fond, c'est des personnes comme nous autres, tu sais, il y en a qui sont obligés de vivre le végétariat, tu sais, on pense à une Céline, entre autres, tu sais. Céline, elle ne peut pas aller manger un smoked meat chez Nichols comme avant, tu sais.
Mais tu sais, quand je te disais tantôt, as-tu déjà protégé les artistes, là? Michel Louvain, c'est un bon cas, là. Si tu étais sorti des années 80 puis tu avais dit ce que tu savais comme quoi Michel Louvain, il était gay, écoute, ouais, tu aurais peut-être même pu ruiner sa carrière, là. Alors que tout le monde savait qu'il était gay, Michel Louvain, mais ça s'est dit comme dans les années 2010-2015 qu'on a su qu'il partageait sa vie avec un homme, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, tout le monde accepte ces gens-là, puis avec raison. Mais des années 80, tu aurais pu carrément scraper sa carrière en disant « Michel Louvain, il est avec un homme! »
Ben c'est clair, mais j'aurais pu ruiner la mienne aussi, tu sais.
Ah, aussi? Ah ouais?
Mais de toute façon, je veux dire, tu sais que c'est un sujet que tu n'abordes pas. Et même si Michel avait, mettons, lui ou un autre, avait accepté de se confier puis me faire des révélations, jamais mon rédacteur en chef ou le directeur du magazine ou du journal aurait publié ça. Tu sais, c'est comme une entente silencieuse établie au fil des ans. Tu sais. Même chose quand tu sais très bien, mettons, que tel artiste est en amour avec un tel, mais que personne n'en parle, lui n'en parle pas, elle n'en parle pas, puis toi, tu as le... T'as l'ordre, finalement, de pas aborder cette question-là, tu sais. Fait que, regarde, souvent, on entend dire « Ah, c'est son jardin secret », tu sais. Ouais. Regarde, c'est bien correct.
Mais même encore aujourd'hui, il y a quand deux artistes se fréquentent puis c'est pas encore dit publiquement, vous vous gardez une réserve. T'sais, exemple, un Justin Trudeau et un Katy Perry ensemble, t'attends que ce soit confirmé puis qu'il soit vu, puis... Je trouve ça plate un peu, parce qu'en même temps, quand tu sais quelque chose, t'as un scoop que tu peux avoir, tu sais, puis tu veux scooper les réseaux sociaux, là.
Oui, exactement. Il y a toujours la recherche du scoop, évidemment, mais jusqu'où tu peux aller pour publier un scoop, tu sais. C'est toujours ça, la marge est mince, là, mais il faut toujours penser que, comme je te disais tantôt, il y a du monde au-dessus de toi qui vont décider, ah oui, ça passe, ça passe pas, OK, ça on publie pas, tu sais. Peut-être que si tu travailles pour un quotidien comme Journal de Québec, ouais, ou ben là, à ce moment-là... c'est autre chose, mais dans le cas des magazines artistiques, là, il y avait quand même un territoire à protéger, puis un marché à protéger aussi.
Ouais, moi, je fais de la radio depuis 2006, puis depuis 2006, il y a une fois où je me suis fait dire « Yann, faut pas que t'ailles là ». Okay. Puis finalement, ben, ça avait sorti un peu plus tard. Mais quand on est un jeune journaliste fringant comme tu l'étais dans les années 80, des fois, ça devait te titiller quand tu apprenais des affaires puis tu disais « Eh, tabarouette, si je mets ça dans le journal, je vais être le gars le plus lu à travers le Canada. » Ça doit être tough, là.
Ben c'est tough. Puis effectivement, c'est tentant. Puis il y en a qui l'ont fait, tu sais. Je pensais à Herbie Moreau, tu sais, Herbie Moreau qui se retrouvait sur les tapis rouges, puis au-delà de dire « t'es-tu content d'être ici, puis t'es-tu heureux d'être sur place, tu sais, puis comment t'es habillé? » Ben oui, t'es allé chercher des scoops, puis tout ça, puis souvent, c'est plus facile d'aller chercher des scoops, puis de les publier quand il s'agit de vedettes internationales, tu sais. Je pense pas qu'ils viennent poursuivre ou qu'il y ait des réprimandes par la suite au journal ou au magazine ou au show de télé dans lequel tu as fait cette révélation-là. T'sais.
Quand tu t'es fait dire que tu seras jamais un journaliste sportif puis tu couvriras jamais le Canadien, ça t'a-tu fait suer un peu?
Écoute, t'as jamais donné, c'était mon rêve. Hein? C'était mon rêve de me ramasser sa galerie de la presse.
Ouais.
Et pendant 6 mois au Journal de Montréal.
Ouais.
Des résumés de matchs de baseball, puis ça, un été de temps, puis je remplaçais un journaliste qui était malade. Puis là, je me croisais les doigts, je me disais quand il va revenir, peut-être qu'il va y avoir un poste qui va s'ouvrir, tu sais, puis je vais plonger dans le hockey. Mais non, c'est pas arrivé, mais j'ai pris ma revanche en publiant des livres de hockey que tu as sûrement vu, là, avec
Oui.
le père de Martin Brodeur, Denis Brodeur, qui était photographe. Fait que je me suis comme, je sais pas, je me suis comme, oui, c'est ça, ça a été une revanche,
Mais
tu sais.
ils t'ont jamais dit oui pour le hockey.
Ben, ça n'a jamais donné. J'ai pas cogné aux portes effrayant. C'est juste quand, comme je te dis, quand j'étais journal de Montréal. Mais autrement, j'ai rapidement établi ma niche, là, si tu veux, dans le showbiz.
Ouais. Journaliste culturel, tu sais, des fois, il y a des postes de travail dans les médias, tu dis, ah, ben ça va être à forte concentration masculine. Entre autres, le sport, mettons le hockey, là, c'est moins vrai avec l'arrivée de l'exceptionnelle Andréanne Barbeau qui va devenir animatrice à RDS. Moi, je trouve ça formidable pour elle, ce qui lui arrive. Mais quand on voyait comme descripteur de hockey, dans notre tête, c'était automatiquement un gars. Journaliste culturel, dans notre tête, c'était tout le temps des filles. Ça a-tu été dur pour toi, ça, dans les années, je te dirais 90, début 2000, d'évoluer au travers toutes ces femmes-là?
Non, il n'y a pas eu ce combat-là. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui dirigeaient les journaux et les magazines, tu sais.
Ouais.
Puis, écoute, dans le fond, c'est ton travail qui fait loi de tout, là. Tu arrives, tu fais des bons textes, tu fais des bonnes entrevues, puis là, ton patron entend dire que, ah oui, Daniel, un tel l'a bien aimé l'autre jour, puis ça. Fait que même en naviguant avec plein de filles, ce qui n'était pas désagréable, avec plein de filles autour de moi, ben, écoute, j'ai réussi à faire ma place, tu sais, mais dans le fond, là, tu ne fais pas ta place tout seul. T'sais. Tu fais ta place grâce aux gens que tu rencontres, grâce aux artistes qui acceptent de se confier. Puis c'est pour ça qu'après tant d'années, je ne dis plus combien. Je suis comme les actrices qui disent plus leur âge pour essayer d'avoir des contrats à la télé. T'sais. C'est le fun de voir que ça marche encore, puis j'ai encore du plaisir, tu sais.
Ouais, ben, moi, je vais t'avouer quelque chose. Quand je t'ai vu arriver à Salut Bonjour, là, je dis, qu'est-ce qui se passe? T'sais, je m'attendais à voir une femme de 20 ans qui. C'était un automatisme. Puis là, je t'ai vu arriver, je te connaissais pas vraiment. Je connaissais un peu plus ta sœur. Puis après ça, j'ai su que c'était ta sœur. Mais je me suis dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis finalement, ben, on avait un Daniel Desgnaux qui était là pour les bonnes raisons, qui faisait ce métier-là parce que c'était un passionné, puis il voulait en apprendre un peu plus aux gens concernant les artistes, puis tu as été grandement apprécié. Mais je vais te dire, j'ai pogné un méchant 2 minutes quand je t'ai vu à la face à Salut Bonjour. C'est qui, lui? Voyons donc! Mettez-moi une fille de 25 ans!
Ben, là, c'est pas mal ça aujourd'hui, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça t'a pas nuit, ça, d'être un gars parmi cet océan de femmes dans le métier?
Pas du tout. Je te dirais là que t'sais, quand tu réussis à prouver ta valeur, là, puis que tu démontres que tu es capable de faire la job, que tu sois un gars, une fille, peu importe, là, les gens sont assez intelligents pour dire, OK, lui, c'est de bons joueurs qu'on a, puis on va le mettre sur le premier trio. T'sais. Puis si quelqu'un calcule que tu devrais être sur le troisième trio, ben, là, tu débarques, puis c'est une fille qui se ramasse sur le premier, tu
Ouais.
sais.
T'es multitalentueux, tu fais mille et une carrières en même temps. C'est pas brûlant, ça, d'être écrivain, journaliste au culturel, des fois photographe. Je m'en vais dans un mariage, je fais ce contrat-là. Ah, ben, j'écris un livre, tiens, je suis auteur, mon père l'était aussi, un auteur prolifique, soit dit en passant. C'est-tu brûlant à long terme d'être capable de faire tout le temps ça? J'imagine que tu dois te déborder d'idées dans ta tête, là.
Ben, tout le temps, tu sais. Puis je finis un projet, puis j'en ai 2 autres en tête, tu sais. Mais c'est ce que j'ai toujours trouvé excitant. Moi, un travail là, de 9 à 5, là, écoute, je me serais ennuyé comme c'est pas possible, tu sais. J'ai eu la chance, justement, de toucher à tout, tu sais, de concepteur de show de télé, recherchiste. J'ai même écrit des chansons,
Avec
imagine-toi.
Luce Dufault puis Patrick Bourgeois.
Oui, incroyable, hein? Puis ça, c'est pas comme, ah, un jour, je vais écrire des chansons. Ben non, c'est comme le fruit du hasard, là, qui a fait que je me suis retrouvé avec 2 textes sur 2 albums. Mais moi, je trouve ça excitant. T'sais.
Je
C'est un
comprends.
peu comme.
Je
C'est un peu
comprends,
comme.
mais tu trouves ça excitant, mais tu as l'air à trouver ça normal. Moi, tu comprends que quelqu'un qui est multitask comme toi, je trouve que tu fais partie des exceptions de la planète, là.
C'est drôle, hein, parce que j'ai des chums la question qui revient tout le temps, quand ça fait longtemps que j'ai vu, ils me disent, Hey Dan, quand est-ce que tu arrêtes? Quand est-ce que tu prends ta retraite? T'sais. Moi, évidemment, ben, il n'est pas question de retraite. Puis, je pense que pour moi, c'est justement ce qui me fait fonctionner d'avoir différentes idées et différents contrats comme ça. Puis, tu sais, là, j'ai un livre là, qui vient de sortir, ben, j'en ai un autre qui va sortir à l'automne.
Ouais.
J'en ai fait 15, puis tu fais pas des livres parce que tu dis, hey, je vais faire fortune avec ça, là, tu sais. Mais c'est le kick de faire ça, tu sais, de faire quelque chose que tu aimes finalement. Je pense que, tu sais, les gens qui sont malheureux, je pense à Michel Barrette en disant ça, qui me disait que son père, il n'y a pas un matin qu'il se levait pour aller travailler, puis il disait quelque chose comme, oh, maudit, je peux pas croire à une autre journée à la shop, tu sais. Je trouve ça malheureux, les gens qui se lèvent le matin puis qui vont travailler puis qui sont tannés de leur emploi. Je me dis, regarde, peut-être tu serais dû pour un changement. Peut-être le changement va être seulement bénéfique. Ça va peut-être être dur, tu sais, peut-être les 3 premiers mois, les 6 mois. Mais après ça, tu vas trouver un emploi qui va mieux te convenir. Fait que moi, j'ai eu, je te dirais pas, j'ai eu la crainte de ne pas avoir d'emploi, tu sais, parce que tu es pigiste tout le temps dans ce milieu-là, tu sais. Fait que tu finis un contrat, tu en finis un autre, tout ça, puis quand j'ai eu les belles années avec Paul Arcand, puis Salut, bonjour, ben, tu sais, à un moment donné, quand ça a arrêté, ben, il fallait que je fasse d'autres choses, tu sais. Mais je te dirais, là, pas te mettre de pression, mais j'ai rarement eu moins que 2 emplois en même temps, tu sais. J'ai toujours écrit, puis en plus, ben, je faisais beaucoup de radio, ou encore, ben, attaché de presse, ou recherchiste, tu sais, j'ai toujours été à combiner.
Ça a-tu été dur, ça, cette vague d'émotions-là, qu'à un moment donné, ben, les chroniques avec Paul Arcand, c'était terminé, Salut, bonjour, c'était terminé. Ça a-tu été dur sur le moral, ça?
Ça a été dur, mais tu comprends, puis tu le sais que dans ce changement-là, c'est une roue qui tourne. T'sais. Puis quand j'ai perdu mon emploi au 98.5 avec Paul, ben écoute, une semaine après, il y a le producteur de Salut Bonjour Weekend qui m'a dit, écoute, je t'écoute tous les matins depuis 4 ans, puis j'aime ça ce que tu fais. Viens donc me rencontrer. Puis ça n'a pas été long, j'ai eu le contrat à Salut Bonjour. T'sais. Fait que on sait que c'est une roue qui tourne, puis même si je vieillis, puis je suis plus. Exactement, un jeune journaliste fringant. Quoique,
Ben, je pense que tu travailles pas mal plus que tous les jeunes journalistes fringants que je connais, là. Je peux te le confirmer.
ben, pas mal, mais tu sais, la clé, c'est le plaisir. C'est vraiment le plaisir, puis le plaisir est une passion. Puis dans mon cas, ben écoute, ça m'a toujours bien servi depuis 40 quelques années, tu sais.
Comment c'est arrivé, ça, écrire une chanson pour Luce Dufaux, écrire une chanson pour Patrick Bourgeois? T'écris-tu des chansons quand t'es dans tes loisirs?
Pas partout.
Non.
Écoute, Luce, c'était bien bizarre. Je revenais le traitement de physiothérapie pour mon genou. Je m'étais pété le genou en ski. Puis, écoute, j'ai pas mis de musique, rien. C'est le silence total dans l'auto. Il est comme 10h30 le soir. Puis, je suis arrêté sur une lumière. Puis, à un moment donné, j'ai un flash. 2 lignes qui me viennent en tête. C'est l'inspiration. Laissez-nous la chance de tout rebâtir. Hey, c'est bon, ça. Je note ça sur un journal qui était sur le siège à côté. Puis, arrivé à la maison, j'ai décidé d'explorer ça un peu plus, de pousser ça. J'ai écrit, écoute, une feuille, elle n'en finissait plus. Puis après ça, en lisant ça, je me suis dit, oups, ça pourrait faire une bonne chanson, tu sais. Fait que j'ai réduit ça, j'ai réduit mon texte, je l'ai envoyé à une productrice que je connaissais, qui s'occupait de Luce, qui était une jeune chanteuse, qui préparait son premier album. Puis bingo, elle a aimé le texte, tout ça. Puis Daniel Lavoie a fait la musique, puis c'est devenu une chanson. Mais c'est ce qui est le plus extraordinaire dans tout ça.
Vas-y.
C'est pour le kick, évidemment, d'être dans l'auto, puis ah, tout à coup, c'est ta toune qui joue, tu sais. Son album est sorti en 96. Je me suis marié en 1998, à l'été. Et cet été-là, Laissez-nous la chance, la chanson, était numéro un partout. C'était le 5e extrait de l'album. Et ma blonde et moi, on s'était dit, regarde, on est assez vieux, on se donne pas de cadeaux, on se fait un gros party de mariage. T'sais. Mais moi, en cachette, j'avais booké Luce. J'avais demandé à Luce de venir, avec 2 musiciens, chanter la toune pendant le souper. Écoute, la surprise totale, le monde braillait, ça se pouvait pas. Fait que, tu sais, pour vivre des moments comme ceux-là, là, je veux dire, c'est magique. Tu te dis, hey, ça valait la peine que je mette les efforts, que j'écrive une chanson, que je fasse les démarches, etc. Tu sais.
Ben surtout que cette idée-là t'es venue du fait que la radio était pas ouverte dans ton char.
En
Là, tu
plus.
pensais dans ta tête, laissez-nous la chance de... C'est bon ça, puis là t'as décidé de faire un texte en arrivant à la maison et tout d'un coup ça se ramasse un hit, tout le monde écoute cette chanson-là pendant des semaines et des semaines. Ça fait du bien à l'ego un peu.
Ben, mais hein, c'est super le fun.
Est-ce que ton père a eu la chance de voir ton œuvre à toi?
Un peu, oui, quand même. Puis, tu sais, les hommes de sa génération, c'était pas le genre à te prendre dans ses bras puis à faire des gros câlins puis à dire bravo, mon fils, là. Non, c'était pas ça, tu sais. Peut-être plus aujourd'hui, évidemment. Mais il était fier. Puis ce qui est le fun, c'est que tu te souviens peut-être du quiz Galaxy que Réal Giguère animait.
Bienvenue à Galaxy.
On remonte loin. Là. Fait qu'on avait participé à cette émission-là ensemble. C'est la seule fois où on a fait de la télévision ensemble. T'sais. Puis il était vraiment fier. Là, il me présentait. Ça, c'est mon fils. Ah, vous le connaissez peut-être, il est journaliste. Ça, c'est drôle de le voir aller. Fait que ça, c'était comme. Mais évidemment que oui, il était content. Quand j'ai fait mes livres de hockey, il y avait toujours. À chaque année, il y avait des lancements à la brasserie Monsun. Puis, tu sais, mon père, il voyait des Maurice Richard, des Jean Béliveau, des Henri Guchard qui étaient là. Il tripait parce que lui, c'était un grand fan de hockey aussi. Fait que ça, c'était le fun de le voir triper, d'être là, puis en même temps que c'était le lancement de mon livre. T'sais. Fait que c'était cool.
C'est des beaux souvenirs. Puis la chanson que tu as écrite pour Patrick Bourgeois, c'est arrivé dans quel contexte?
C'est un texte que je lui ai envoyé. Écoute, je ne me souviens même pas comment je l'ai écrit. J'ai envoyé ça, puis j'ai dit, garde, lis ça, dis-moi ce que tu en penses. Puis il m'a rappelé, il m'a dit, c'est super bon, je vais faire une musique, puis let's go. Puis ça s'est retrouvé sur son premier album solo. Tu sais, des fois, là, c'est comme question de timing. Hein? Tu peux ouvrir une porte, puis tout à coup, oups, il n'y a rien l'autre bord, mais t'en ouvres une un autre jour, puis là, tout est en place. Fait que ça a été la même chose avec Patrick, tu sais.
Explique-moi, tu passes-tu ta vie à écrire des chansons puis t'en envoies comme 3 milliards pour être sûr et certain d'avoir une réponse positive? Ça n'a pas de bon sens que t'aies une idée puis pouf, ça sort en chanson?
Écoute, ma moyenne au bat est pas mal bonne parce que j'en ai fait deux puis les deux ont été en disque.
Mais ouais, on se pourrait juste faire ça de ta vie, Daniel.
Ouais, ça aurait été un beau filon payant à exploiter, mais regarde, j'ai jamais eu d'autres flashs, j'ai jamais eu d'autres textes où je me disais, ah oui, ça ferait une bonne chanson. Là,
non, je trouve ça juste incroyable, tout ce qui t'arrive. Comment t'as trouvé ça, travailler à Salut Bonjour Week-end à Québec? Tes passages à Québec, ça ressemblait à quoi?
Écoute, moi, je connaissais pas beaucoup Québec. Okay? J'ai découvert Québec, j'ai trippé sur Québec. J'arrivais là le vendredi, on couchait, c'est encore le cas, au Château Bonentente, puis je revenais le dimanche, tu sais. Puis, évidemment que le samedi, après l'émission, ben j'ai exploré Québec sous toutes ses coutures. Puis tellement que, bon, ma fille habite à Québec et il est peut-être question dans un avenir plus ou moins rapproché que je déménage à Québec.
Montréal, c'est une île qui est formidable. C'est une île où ça bouge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Québec, c'est un peu plus tranquille, je te dirais. À l'époque, ça bougeait du jeudi soir jusqu'au... Des fois dimanche soir, des fois ça allait jusqu'au lundi soir, mais on va se le dire, maintenant c'est un peu plus tranquille. Fait du bien des fois de descendre à Québec. Là.
Ben oui, puis la ville est tellement belle. Écoute, ouais. Tu regardes le vieux Montréal, puis tu regardes le vieux Québec, il n'y a aucune comparaison possible, tu sais, c'est fou là. Puis je te dirais qu'il y a pas mal moins de nid de poule à Québec qu'à Montréal.
Ouais. C'était-tu une problématique pour certains artistes? Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était de passage dans ma vie avec qui j'étais encore des contacts régulièrement. C'était une artiste qui avait fait le choix délibéré d'habiter à Québec, mais de travailler à Montréal. On a dans les médias, on a notre chum P.Y. Pierre-Yves Laure qui fait la même chose, travaille à Montréal principalement et est un résident de Québec. C'est-tu une problématique pour les artistes de ne pas être dans le show à Montréal, de ne pas habiter là?
Et tout se passe pas mal à Montréal. Hein? Fait que si tu veux faire carrière puis jouer dans différentes pièces, dans différents théâtres, tu veux jouer au TNM, au Rideau Vert, etc., ben, t'as pas le choix à Money. Puis il y a un paquet d'artistes du Saguenay, entre autres, qui ont étudié à Québec au conservatoire puis qui ont décidé de faire la route après ça à Québec en se disant peut-être je vais revenir, mais tu sais, quand le travail se pointe à Montréal, ben c'est autre chose. Mais tu sais, pour habiter à Québec aussi, je veux dire, si t'as. Peu importe le travail que tu fais, mais si tu as un marché là-bas qui te convient bien, puis que ça te va, puis que tu n'en demandes pas plus que ça, tu veux pas toujours être à droite puis à gauche, mais si tu veux devenir comédien puis jouer dans des séries, ben c'est pas mal à Montréal que ça se tourne.
Il faut que tu sois dans le show. Les petites questions ici, quel est l'invité le plus exceptionnel que tu as eu? Et pourquoi?
Je dirais Gilbert Bécaud.
Oh, OK, oui.
Je raconte cette histoire-là dans mon livre qui vient de sortir. Gilbert Bécaud, qui était vraiment un bon vendeur. Lui, là, il aurait été bon dans un magasin de souliers, de chaussures. Là. Il t'aurait vendu 15 paires en 10 minutes. C'est que lui, il aimait le Québec, puis il ne gênait pas pour beurrer épais. Là, je me souviens de l'entrevue que j'ai faite à l'Olympia de Paris, okay, dans sa loge, après un show. Puis là, il ne me regardait pas. T'sais, moi, j'étais là, mais il regardait la caméra direct, puis il disait, ah, le Québec, les cabanes à sucre, les gens chaleureux, les gens qui aiment tellement mes chansons, qui sont nombreux à mes spectacles. Écoute, là, t'sais, du violon. Mais il était gentil, c'était effrayant, c'était un bon monsieur. Puis une autre fois, je suis allé avec Patricia Paquin, qui faisait une émission qui s'appelait Star Plus. On est allé sur sa péniche. On a rendez-vous là en fin d'après-midi. Puis le même Béco, mais là, le même Béco qui était un peu pompette. Puis de bonne humeur, puis encore là, il beurrait épais. Puis écoute, c'était vraiment super sympathique. Fait que ce gars-là, il était assez formidable. Ouais.
Puis à l'inverse, y a-tu des gens qui t'appelaient, Daniel, et qui disaient, hey, j'ai un peu plus de misère ces temps-ci, je manque de contrat, là, tu peux-tu réaliser une entrevue avec moi, là? Ça ferait bien que tu parles de moi à l'émission d'Arcan, ça ferait bien que tu parles de moi, salut, bonjour. C'est-tu déjà arrivé, ça, des artistes qui étaient entre deux contrats, puis ça commençait, ils commençaient à avoir faim, là?
Ça, c'est pas arrivé, mais je te dirais qu'il y a des attachés de presse, des fois, que tu contactais pour avoir une entrevue avec une vedette là, bien connue. Puis elle te disait, ben OK, oui, je vais te donner une entrevue avec un tel, tu vas pouvoir le rencontrer, mais j'aimerais ça en même temps que tu me plugues un tel, tu sais, qui en arrache un peu, puis ou qui vient de lancer son album, puis qui n'a pas la couverture médiatique qu'il mériterait. Fait qu'à ce moment-là, c'était un échange de bons procédés, tu sais. Ça s'est fait assez souvent, je te dirais.
Okay. On m'a demandé de te parler de Rock Voisine.
Oui.
T'as-tu couvert toute l'entièreté de la carrière de Rock Voisine? Moi, j'ai connu Rock Voisine quand il était un jeune chanteur, quand il faisait l'émission du samedi soir. Là, tous les soirs, c'est Saturday.
Oui.
Les filles capotaient sur Rock Voisine. C'était un peu le. Pour les plus vieux, c'était un peu le Michel Louvain de l'époque, là. Il chantait pas la même affaire, bien entendu, mais c'était la fraîcheur du jour, le Rock Voisine, quand il est arrivé.
Ouais, carrément. Écoute, son émission, c'était à TQS, puis je pense que j'ai fait l'une de ses premières entrevues, puis t'es timide comme ça se pouvait pas, puis ça. Mais moi, je l'ai vu, Rock Voisine, à l'équivalent du Centre Vidéotron, mais à Paris, à Bercy. OK? Puis le public français, il est vraiment particulier. D'une part, il chante toutes les chansons. Il connaissait toutes les chansons de rock par cœur. Fait
Ah oui?
que rock a beau être sur scène puis chanter, tout le monde entend la foule chanter la chanson avec l'artiste. Et moi, où j'étais placé pas mal en avant, j'ai vu au moins trois filles être escortées à l'extérieur puisqu'ils venaient de s'évanouir, là. C'était la folie, c'était la cousine mania, la rock mania, là, tu sais. C'était, écoute, les filles qui criaient à tue-tête, qui étaient en amour avec rock, c'était vraiment la folie furieuse. Puis à ce moment-là, bien évidemment, rock, il y avait des gardes du corps, puis ils ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient, là, tu sais. C'était la folie, tu sais.
Ouais. Je ne sais pas s'il était tout à fait conscient de ça. Moi, ce qui m'a fait capoter dans les derniers mois, j'ai vu le documentaire sur sa vie qui était disponible. Là. Je ne me rappelle pas où j'ai pogné ça, mais il est en train de s'entretenir avec ses deux gars. Puis ces deux petits gars avaient aucune idée de qui était vraiment leur père, parce que Rock Voisine, dans sa vraie vie, c'est un père ordinaire, puis il voulait être perçu comme ça avec ses gars. Et là, quand ces gars, ils voyaient les images qui étaient diffusées de leur père qui était plus jeune, entouré de toutes ces femmes-là, puis les milliers de personnes qui étaient dans la salle, ils n'en revenaient pas, là.
Ben, effectivement, je pense qu'ils ont eu un choc parce que tu peux pas. En plus, quand tu as du visuel, tu sais, quand tu as des images, puis tu vois à quel point ton père était une méga star, tu sais, tu dis, OK, tu en as entendu parler, tu as vu des photos, puis ça, mais là, de voir des gens qui crient à tue-tête, puis des gens qui courent après rock dans les rues pour essayer d'avoir un autographe ou une photo ou un morceau de linge, tu sais, ou un morceau de rock. Ben là, tu réalises que, oups, OK, mon père, finalement, il a eu toute une carrière, puis c'était vraiment une grande vedette.
Oui, ah non, c'est un bon documentaire sur la vie de Rock Voisine. All right. On est avec Daniel Desgnaux ce soir. Il est, écoute, il a de multiples talents, Daniel Desgnaux. C'est un journaliste dans le milieu culturel depuis 45 ans. C'est un auteur de chansons, un auteur de livres. C'est un photographe aussi. Hey, tu m'énerves, je pense autant que Rock Voisine, là. T'sais, lui a 60 ans, Rock Voisine, il est encore beau bonhomme. Toi, t'es rempli de talent, t'as plein de carrière. C'est donc bien le fun de te jaser.
Ben, écoute, c'est le fun de parler de mon métier, tu sais. Puis, tu vois comment je suis mordu, puis comment je suis passionné.
Ouais.
Puis, moi, tu vas me dire, OK, quand est-ce que tu prends ta retraite, tu sais, comme mes chums me disent?
Ben
Ben
non,
non.
ben non, ben non.
pas de retraite, tu sais.
Non, puis j'imagine que c'est ce qui te motive, c'est cette belle passion-là que tu as depuis des décennies, des décennies. Après la pause, j'aimerais ça parler de tes livres, ça te tente-tu?
Yes, on y va.
Ben reste là, puis pour les autres, ben touchez pas à ce piton-là.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Une autre toune que je vais vous scraper pour le bien des séries du Canadien Go Habs Go.
Il y a beaucoup d'insultes.
C'est vrai, hein? Hey, quelqu'un a manqué le début de la toune.
Non.
Ah. Malheureusement. Dans le point de max à 10h.
Ah, au moins, c'est pas fait par l'intelligence artificielle.
Non, ça, non.
Ça, non.
Ça, aucun non.
J'ai plus apprécié mettre 150$ de gaz dans mon sac que le toune à max, c'est Jason.
Quelqu'un...
C'est sûr que t'aimes pas gagner en 4 à cette heure.
On est 100% talk en semaine.
Oui.
100% comme 100%.
Ouais.
Jeff, il y a Emmanuel Latraverse qui vient d'appeler finalement à
ça fera pas.
Non.
Fini.
Non, elle a dit qu'elle a écouté ce matin, puis ce sera pas possible de faire.
Elle voulait
la
voir
radio,
quel
non,
genre c'est... de radio qu'on était, mais elle a dit oh, ouais. M'embarquerai pas là-dedans.
On va rester ouais. À Montréal.
Petit top de boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Ce segment d'émission présenté par Option Paysagiste. Imaginez une cour parfaite, pavée, piscine, éclairage chaleureux et espace pour relaxer et recevoir. Pour votre cour de rêve, c'est optionpaysagiste.ca. Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévis qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com.
Le printemps s'installe, les journées rallongent et les excuses pour une bonne bière se multiplient. Chaloux, Beauport-Saint-Émile et Sainte-Cat. Votre arrêt pour profiter pleinement du printemps.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de passer à l'électrique avec Kia Lévis. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour se procurer le Kia Niro EV Wind. En incluant le rabais Fidélité, la remise gouvernementale et le rabais Kia jusqu'à 5 000 $, la Niro EV vous est offerte en location pour 60 mois à partir de seulement 95 $ par semaine. Et il n'y a aucun acompte à verser. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Envie de renouveau ce printemps? Nous aussi. À l'Institut Diva, on s'est refait une beauté avec un tout nouveau site web et une boutique en ligne repensée. Offrez-vous une pause avec nos services de coiffure, massothérapie et esthétique. Rendez-vous au institutdiva.com.
La zone spectacle extérieur Le Champ du Festival Western de Saint-Tite revient en 2026 sur la scène SiriusXM. Dès le 11 septembre, voyez Max McNone, Matt Lang, Cameron Whitcombe et Blake Whitton. Billets au fwst.ca.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse bonne journée.
Et comment? Ce mois-ci, durant l'événement Mettez-nous au défi, le Nissan Rogue est offert à partir de 0% d'intérêt en location sur 36 mois. Et 0%, ce serait dur d'aller plus bas. Alors, c'est le temps pour quoi? Tous les détails chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan.
Hey, t'es tout seul, avec ta gang ou après la job avec tes collègues, ça se passe chez Québec Beau. Des assiettes généreuses, des prix qui ont de l'allure, puis 10 selles pour 10 piastres pendant les games d'hockey. Québec Beau, pas pire, hein?
Saviez-vous que Toronto fait partie des destinations accessibles par vol direct depuis Québec parmi plus de 35 destinations? Voler de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, c'est simple. Peu de fil, courte marche et aérogare moderne. Visitez décollerdequebec.ca ou parlez-en à votre conseiller en voyage.
Vous avez un véhicule à vendre? Chez Lévis Ford, on rachète votre véhicule sans obligation d'achat. Toutes les marques sont acceptées et obtenez la meilleure valeur pour votre véhicule. Et si vous voulez changer, Lévis Ford a aussi les meilleures offres pour votre nouveau camion. Lévis Ford, les Fort de Lévis.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Moreau PRS poursuit sa croissance. En plus de sa succursale de Québec, une toute nouvelle place d'affaires ouvrira très bientôt sur la Rive-Sud. Restez à l'affût. Moreau PRS, 40 ans d'expertise et maintenant encore plus près de vous.
Retour des promos printemps au Club Avantage Multisport. Gym, workout, spinning, tennis, pickleball, badminton, yoga. 3 mois, tous les services pour 145 $. garderie et semaine d'essai gratuite. Visitez-nous à clubavantage.ca.
Envie de liberté? Encore plus de liberté et toujours plus de liberté? Obtenez-en plus avec les Mazda CX-70 et CX-90 et leur technologie hybride rechargeable qui vous permet de passer de l'essence à l'électricité en toute simplicité. Ou optez pour un modèle hybride léger pour plus d'harmonie entre puissance et efficacité. Moins de temps à la pompe, plus de liberté. Profitez des offres en cours ce printemps pour prendre le volant d'un Mazda CX-70 ou CX-90 hybride. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Jusqu'au 30 mai, économisez gros chez Pièces d'auto économiques. Profitez de 15% de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max et jusqu'à 20% sur les essuie-glaces Rain-X. Pièces d'auto économiques, c'est 8 magasins et un site transactionnel au pièceséconomique.com.
Vous cherchez du matériel d'artiste et des produits uniques pour vos créations? Les 18 et 19 avril, rendez-vous au Salon des arts en folie au Centre de foire Exposité. Découvrez des artisans et des boutiques spécialisées en tricot, peinture, couture et arts manuels. Pour tous les détails, visitez salondesartsenfolie.com.
Les séries du tricolore, ça se vit chez Normandin. Dans tous les N-bars Normandin, regardez les matchs en profitant de 24 % de rabais sur la pizza, comme le numéro de Philippe Dano et d'un prix spécial sur la pinte. Et pour le premier match, direction le N-Bar du chemin Sainte-Foy pour une soirée des Ligues majeures. Nul autre que Bob le Chef sera votre barman avec chandail et carte cadeau à gagner. Portez votre chandail du tricolore et recevez une surprise Molson. Réservez votre place dès maintenant. Normandin, ça fait plaisir.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En avril, offrez-vous la Kia K4 2025 à partir de 85 $ par semaine à l'achat sur 84 mois. Passez-nous voir à Beauport.
Kia Beauport, une histoire de famille.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, c'est Daniel Desnieux. C'est un journaliste dans le milieu culturel depuis plus de 45 ans. Ah, mais il a commencé très jeune, il a commencé à 2-3 ans. Là, ouais. Fiez-vous pas là-dessus. Il a été rédacteur en chef de plusieurs journaux et magazines. Il était attaché de presse. Il a été longtemps avec M. Arcan à Montréal. Il a fait du TVA pas mal. On l'a vu entre autres à Salut Bonjour. C'est un photographe. C'est un auteur de chansons. On parlait d'Isabelle, pas Isabelle, mais on parlait de Patrick Bourgeois. Et on parlait tout à l'heure de Luce Dufault. Donc, tu as écrit des chansons pour elle. Et tu es auteur de plusieurs livres. Là, est-ce que tu as l'intention de battre le record de ton père qui a vendu presque 22 millions de livres, Daniel Desnieux?
Non, je pense pas qu'on va aller là, mais tu sais, chaque livre que j'ai fait, là, il y en a quoi, une quinzaine, là, ça a toujours été des coups de cœur, tu sais. Je me souviens, écoute, il y a un livre à un moment donné que j'ai fait qui était complètement inattendu. Tu te souviens de Gilles Perron, le réalisateur qui avait été accusé d'avoir tué sa femme? Il y a eu deux procès, puis ça. Je venais de faire mon premier livre de hockey, OK, avec Denis Brodeur. Et là, l'éditeur me fait venir dans son bureau, il me book un rendez-vous. Il dit, je veux te parler d'un projet. Fait que là, j'arrive là, puis Gilles Perron est là, que je connais absolument pas. Il me serre la main, puis ça. Il dit, tu sais, Gilles Perron, je sais pas c'est qui, là. Fait que là, il me dit, tu penses-tu que j'ai tué ma femme? Je sais même pas de quoi il me parle, tu sais. Fait que là, moi, j'ai répondu oui. Fait que là, il dit, parfait, on va bien s'entendre. Puis là, dans les minutes qui ont suivi, j'ai appris que qui il était. Puis qu'il voulait écrire un livre, mais qu'il ne savait pas écrire. Alors, c'est moi qui étais chargé de faire le livre. Puis ça, c'était vraiment un exercice là, de journaliste, là, de journalisme intense, là, à plonger dans les témoignages des procès, puis tout ça. Puis,
il l'avait-tu tué, sa femme, finalement?
Ben, on ne sait pas trop, je pense. Je pense que c'est lui qui le sait, puis il est décédé depuis ce temps-là, tu sais. Mais c'était assez passionnant de plonger dans un milieu que je connaissais pas du tout, tu sais, par le procès, puis etc., tu sais. Fait que ça, c'était le fun. Fait que c'est des coups de cœur. Vraiment, les livres, c'est des coups de cœur à chaque fois.
Puis ton dernier bébé, là, pas celui que tu es en train de fabriquer, là, mais ton dernier bébé, là, celui qui est disponible en librairie, c'est lequel? C'est celui où tu as une multitude d'entrevues avec des artistes?
Ouais, exact. C'est dans les coulisses du showbiz. Un livre que j'ai écrit avec une collègue journaliste qui est là depuis des lunes aussi. Puis à un moment donné, on s'est dit, je l'ai nommé d'ailleurs, Michel Lemieux, on s'est dit à un moment donné, en prenant un café, hey, on a vécu des choses, hein. Puis elle, elle me racontait des affaires que j'ignorais, même chose pour moi. Puis là, on a décidé, ben là, écoute, il faut écrire ça, il faut faire quelque chose avec ça. Alors, on a écrit ça à quatre mains, chacun notre barre, puis on a réalisé à un moment donné qu'elle, elle avait un texte, mettons, sur Jeannette Bertrand. Moi aussi, j'en avais un, mais c'est comme complètement différent. Alors, on les a gardés, tu sais. Alors, c'est des anecdotes, c'est des rencontres drôles, parfois touchantes, émouvantes même, puis des choses absolument bizarres qui nous sont arrivées, tu sais, au fil des années. Fait qu'on a eu du fun à faire ça. Puis, tu sais, c'est pas comme un gros travail de recherche. Tu plonges dans tes souvenirs, tu sais. Ouais. Tu parles devant l'ordi, puis tu racontes la fois où tu as rencontré Nicole Kidman. Nicole Kidman, qui était frette comme un bloc de glace, qui était plus intéressée par ses messages sur son cellulaire que par le journaliste qui était en face d'elle, tu sais.
Ça, émotivement, là, quand on a un travail à faire, est-ce qu'on le prend personnel, ça, quand on voit une vedette internationale là, qui regarde son cellulaire en réalisant une entrevue avec toi, alors que toi, c'est l'entrevue de ta vie? Pour elle, ça s'appelle un lundi, là?
Ben, c'est sûr que tu as le goût de dire « Hey, wake up », tu sais. Tu dis « Yo, je suis là, tu sais, c'est à moi tu parles, là. » Puis c'était la même chose avec Penélope Cruz. Elle était plate, elle aussi. Écoute, elle avait son cellulaire dans sa main pendant qu'elle faisait l'entrevue. Puis quand je posais une question, là, elle regardait son cellulaire, tu sais. Elle penchait les yeux, puis elle regardait son cellulaire. Fait que ça, tu dis, ben, regarde, manque de respect flagrant.
Ouais.
Ça avait été, exemple, une chanteuse ou une comédienne ici, ben j'aurais dit, garde, peux-tu lâcher ton cellulaire deux secondes, là? On va finir dans 10 minutes, tu regarderas tous les messages après, tu sais. Mais mettons que tu te gardes une petite gêne avec Nicole Kidman, tu sais.
Fait
que
toutes ces anecdotes-là sont racontées dans votre livre. Vous avez combien d'anecdotes là-dedans? Combien d'artistes que vous abordez dans ce livre-là?
On a tout près de 120 moments marquants pour Michel et moi compilés, tu sais. Puis, écoute, jusqu'à maintenant, là, les gens ont du fun. T'sais, c'est drôle parce que Christine Michaud, que tu connais,
ben oui,
qui était Salut, bonjour, week-end, dans le temps que j'étais là, puis c'était un running gag. Christine, quand elle parlait d'un livre, elle disait toujours, c'est un livre qui fait du bien. Puis là, c'est ce qu'on m'a dit, hey, votre livre, il nous fait du bien, on rit, on a du fun, puis c'est touchant, tu sais. Écoute, des artistes que je raconte, tu sais, comme Patrick Normand qui se met à pleurer devant moi pendant une entrevue. Puis là, bon, écoute, explique-moi pourquoi, tu sais. Fait qu'il y a des moments d'émotion comme ça. Je sais pas si tu as vu l'anecdote avec Jean Leloup.
Ouais, ça m'est arrivé avec Patrick Normand aussi. À un moment donné, pendant l'entrevue, on avait une entrevue d'une heure à faire. Puis à un moment donné, je l'ai senti plus sensible. Puis j'ai comme récupéré la balle parce que j'étais en train de le perdre. Sa voix était en train de s'éteindre. Puis il m'avait remercié par la suite parce qu'il était en train de s'effondrer alors que tu t'attends pas pantoute à ça. Puis c'était pas quelque chose de si dramatique que ça. Mais pour lui, ça semblait l'avoir touché. Tu allais me parler d'une autre anecdote?
Ouais, Jean Leloup.
Jean Leloup, oui.
Jean Leloup, qui ne savait jamais à quoi t'attendre quand tu le rencontrais, tu sais. Ou bien il était là ou il n'était pas là, mais il était là devant toi, tu sais. Puis, à un moment donné, on le rencontre au Spectrum, je ne me souviens pas pourquoi, je pense que c'était un show. Puis, des journalistes, trois journalistes qui passent avant moi, puis il y a une fille, une journaliste qui passe, elle dit, oh boy, c'est ce qui n'est pas facile aujourd'hui, tu sais. Fait que là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un flash comme ça, j'ai dit, quand je sais comment je vais l'aborder, puis le mettre de mon bord, tu sais. Puis je le connaissais, là, j'avais déjà fait des entrevues avec lui. Fait que là, je disais, hey, Jean, je dis, avant qu'on commence l'entrevue, je dis, je veux m'acheter une guitare, tu pourrais-tu m'aider, puis me suggérer des endroits, puis ça, hey, les yeux gros comme ça, il part, je vais t'amener chez Steve Music, puis quel genre de guitare tu cherches, puis ça. Fait que là, pendant 5 minutes, il me parle de guitare, il est allumé au maximum. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, ben, il faudrait faire l'entrevue, tu sais, j'ai plus grand temps. Fait qu'on fait l'entrevue. Puis ça a été une entrevue extraordinaire, c'était vraiment cool, tu sais. Mais tu sais que j'ai jamais tenu une guitare dans mes mains, j'ai jamais joué de la guitare, puis ça m'a jamais intéressé. Mais tu sais, le petit stratagème a marché pour mettre Jean de mon bord, tu sais.
Ouais, puis Sylvain, je trouve beaucoup qu'il manque à la communauté artistique Jean Leloup, là. Ses passages à Tout le monde en parle, c'était comme c'était tout le temps spectaculaire. Tout un personnage.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense à Dédé Fortin aussi qui était pas reposant en entrevue, mais ouais, qui était allumé, là. Tu sais, c'était vraiment le fun de jaser avec lui, t'sais.
Daniel Daigneau, pour les gens qui veulent continuer à suivre ton travail sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est possible de le faire?
Ben oui, absolument. Instagram, Facebook. Et je travaille toujours, comme je te le disais, tu sais, il n'y a pas de retraite. Fait que j'écris toujours pour les magazines de TVA, 7 jours, la semaine, et d'autres publications. en plus de peut-être de recommencer à écrire des chansons. Tiens, tu m'as donné le goût.
Ben, je te le souhaite. Ben, je nous le souhaite, parce que je veux dire, les deux chansons que tu as écrites ont bien du sens. Là. Ça a été numéro un pendant des semaines et des semaines. Tu peux te vanter de ça sans aucun problème. Moi, j'ai jamais réalisé ça. Je pense pas avoir le talent pour anyway. Je te souhaite de passer une magnifique soirée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pendant 60 minutes. Je sais que tu travailles fort ces temps-ci. Fait que c'est un privilège de t'avoir en entrevue. C'est la deuxième fois, puis la première fois, ça avait bien été. Celle-ci a été encore merveilleuse.
Ben, merci à toi, mon cher. C'est toujours un plaisir. Puis écoute, tu me rappelles quand tu veux.
Daniel Desgnaux, merci. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 %. Visitez deco-rampe.com.
Envie de plus de fiabilité?